La musique.
Caravana la maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout dans le monde, dans l'univers, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Alors nous reprenons le cours normal, si je peux parler de normalité dans notre émission, le cours habituel de nos émissions, après une série de 6 émissions cet été consacrées à la folie, aux dérèglements mentaux, je ne sais que dire, aux troubles. C'était une série proposée par Marco Caccialupi en 6 épisodes et que nous avions intitulée « Musique de ouf ». Et alors aujourd'hui, c'est la grande première de notre ami Grégoire Bressac. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Et alors, c'est ta première puisque l'émission que tu avais concoctée pour cette série Musique de ouf, il n'a pas été possible de la diffuser en direct.
Ouais, pour des problèmes techniques, mais ouais. Ça arrive, hein, c'est les risques du métier.
Bah voilà, je ne sais pas si c'est un métier, mais oui, non, ça arrive souvent. Et donc, nous proposons, alors toutes nos excuses aux éditeurs, et nous proposons d'écouter cette émission quand nous l'aurons mis en ligne, c'est-à-dire dans quelques temps. C'est Laurent Pascal qui s'occupe de gérer notre site, revient de vacances, il a d'autres choses à faire, mais il va s'en occuper dans les jours qui viennent. Il mettra l'ensemble des 6 émissions de cet été en ligne. Donc du coup, Grégoire, c'est ta première émission et tu n'as pas choisi la facilité, tu vas carrément, parce que tu nous as proposé, on t'a demandé mais qui est-ce que tu voudrais inviter, et tu nous as dit le plus simplement du monde, Tom Johnson. Bon, bah ok. Tom Johnson, on en a parlé plein de fois, on a écouté à maintes reprises sa musique dans notre émission, parce qu'on a reçu plein de fois des musiciens qui ont interprété ses œuvres. Hein. Tom Johnson est un compositeur, un grand compositeur. Le dernier en date, je crois que c'était Lydia Shore en mai, qui on avait diffusé une œuvre.
C'était les Rational Melodies sur le CD dans Potlatch.
Ah d'accord.
C'était Rational Melodies.
Ouais, tu te souviens de ça, d'accord. Et ben voilà, écoute, et là on l'a, comme j'ai mis dans mon petit texte de présentation, nous avons Tom Johnson dans nos studios en chair en os et on va pouvoir lui parler directement. Enfin, tu vas pouvoir lui parler directement à toi, Grégoire.
Ben merci Christophe. Alors du coup, comme tu l'as dit, on a avec nous aujourd'hui Tom Johnson, compositeur américain. Qui habite en France depuis les années 80. Depuis combien de temps tu habites à Paris, Tom?
Oui, 83.
83. Et donc du coup, c'est merci déjà d'être venu. Tom Johnson est un compositeur, on dit souvent minimaliste, et issu de la...
C'est moi qui dis minimaliste.
Oui, voilà, tu es minimaliste. Et tu utilises des processus mathématiques ou logiques ou voilà dans tes compositions. Le morceau qu'on vient d'écouter, comment s'appelle ce morceau?
On parle de Organ and Silence.
C'est ça.
Le mouvement de 28. On dit qu'on a choisi la simplicité, mais c'est pas sûr parce que c'est les mathématiques et les choses déductives, et parfois c'est assez subtil. Mais c'est toujours minimal, et ça c'est vraiment le mot, parce que je travaille toujours avec des choses le plus réduites possible.
Et du coup, c'est dans le processus de cette pièce, on entend au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de notes, que plus le temps passe, plus le matériau se réduit.
C'est ça. Ouais, et surtout le silence. The organ and silence, c'est pour ça le thème. Il y a 28 mouvements dans cette pièce. Et dans chaque cas, il y a au moins 3/4 de silence. Et ça passe très bien. On écoute le silence avec la musique. Et j'aime bien cette musique. Mais curieux, tu penses que ces pièces courtes seraient... très utilisable dans le messe et les services protestants, mais ils sont presque jamais joués dans la liturgie, parce que tout le monde dit « Oh, ça interrompt le silence, interrompt la liturgie, on ne peut pas. » Mais en récital ou à la radio, ça passe très bien. Mm-hmm. Et cette musique était le générique pour une série d'émissions que j'ai fait pour Résonance 104 à Londres en 2011, C'était le générique parce que j'aimais bien parler entre le silence. Quand l'orgue ne jouait pas, je pouvais introduire le thème pour mes amis et la musique de mes amis.
C'est une émission qui s'appelle Music by My Friends, qui est disponible entièrement sur ton site, émission75.com, c'est ça?
C'est
site.
Ça, il y a beaucoup d'autres choses là aussi, et des Tilework, la pièce de Tilework pour alto qu'on va entendre tout à l'heure.
Oui.
Et des autres pièces de Tilework. Et des autres extraits de musique, mais beaucoup d'essais
et textes
aussi, ouais, voilà. Et textes de moi et des autres.
Et tu parlais de Music by My Friends, où tu introduis justement des compositeurs qui étaient très importants pour toi, Robert Ashley, Pauline Oliveros, qui nous a quittés récemment aussi. Tu fais un sur Eliane Rady, qu'on va avoir la semaine prochaine. Tu as... Antoine Boyger, qui était très important, qui d'autre, rappelle-moi, Morton Feldman, tu en as fait un sur Morton Feldman.
Oui, Feldman était mon professeur, mais plus tard mon ami aussi, et vraiment un homme qui était très important pour moi. John Cage aussi, que je connaissais personnellement assez bien, surtout les dernières 10 années de sa vie, quand il passait à Paris, je le voyais souvent. Et il était très important pour moi aussi. Joe Kondo, pas très connu ici parce qu'il est japonais. Sten Hansen, la musique électronique suédoise, aussi pas très connu en France, mais il était à Bourges chaque été pour le festival de musique électronique. Bon, des autres, peut-être j'ai oublié quelqu'un. Frédéric Ryszewski, par exemple.
Ah oui, Ryszewski, oui. Est-ce que tu pourrais reparler un petit peu de Morton Feldman, à quel point il était important pour toi? Tu m'as parlé notamment de cet aspect primordial chez toi, c'est de laisser la musique faire ce qu'elle veut faire.
Bien sûr, il disait ça tout le temps, ne pas pousser, ne pas insister que ça soit la musique de Tom Johnson, laisse la musique faire ce qu'elle veut faire. Et il a toujours pensé comme ça, et ça s'entend dans sa musique. C'est jamais une personnalité qui dirige la musique, c'est la musique qui court naturellement. Et ça, je trouve très important après tellement d'années de romantisme et expressionnisme et égoïsme dans la musique. Encore plus dans l'improvisation et surtout le jazz, qui est toujours « je m'exprime !» Ok, on a fait ça pendant assez de temps. Maintenant, laissez exprimer la musique elle-même.
Du coup, est-ce que tu veux parler du morceau de Tilework pour alto qu'on va écouter maintenant?
Oui, Tilework, c'est-à-dire pavage, est très important. J'ai passé toute une année pour écrire une pièce pour instrument solo, sans accompagnement. Mais l'idée est qu'un alto, par exemple, peut jouer à trois voix, tout seul, pourvu que les trois voix ne sont jamais simultanées. Et donc, on peut entendre un canon à trois voix avec des durées de différentes de manière que on peut entendre les trois voix, mais il faut dire que pavage, normalement, on pense à pavage en deux dimensions. Les pavages qu'on peut faire avec des pentagones, des carreaux, des hexagones, etc. Mais en musique, il faut penser une dimension. Musique est profondément unidimensionnelle parce que c'est le temps qui gère tout. On peut faire 24 pistes si on veut avec beaucoup de choses en même temps, mais c'est toujours une dimension. C'est le temps qui se passe. On ne peut pas entendre la verticalité. On entend le temps. Donc, pour faire un pavage dans le temps, on peut faire exemple simple, ti, 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 ti ti ta ti ta ta ti ta ti ti ta ti ta ta ti ta ti ti ta ti ta ta. Vous entendez ti 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 ti. Aussi ta 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 et ça ça pave, ça va ensemble. Bon, ça c'est l'exemple le plus fondamental, le plus simple possible. Voilà, c'est musique simple, c'est un exemple. Mais quand vous entendez Tile Work for Viola, vous allez entendre que ce n'est pas toujours aussi simple que ça.
C'est un canon à trois voix sur trois tempos différents. Du coup, voilà, je propose qu'on écoute ça, Tile Work for Viola de Tom Johnson.
Thank you.
Voilà, c'était Tile Work for Viola de Tom Johnson. Alors, moi, j'avais, si Grégoire me permet, j'avais une question par rapport à ce que tu disais, Tom, sur le fait que la musique s'écrit toute seule. Alors, moi, je suis complètement néophyte. Je n'ai pas les connaissances de Grégoire, qui connaît très, très bien ta musique. Et moi, je pense que c'est une apparente contradiction avec le fait de... tu as parlé en introduction du fait que les mathématiques avaient de l'importance dans ta composition. Et alors moi, je ne comprends pas comment...
Je dis, je ne veux pas composer la musique, je veux la trouver. Ça vient un peu de Duchamp aussi, des objets trouvés qui peuvent devenir une œuvre d'art. Et je veux musique trouvée qui est déjà faite. Dans mon cas... Ça peut être juste une mélodie que je trouve comme ça, mais plus souvent, quelque chose de mathématique. Et si on joue avec les tuilages, les pavages, avec des rythmes qui vont ensemble sans avoir des trous ou des simultanéités, on trouve des choses. On trouve. Ah oui, ça peut passer comme ça. Et après, ça, 2 contre 3 et 3 contre 5 aussi, ça peut passer. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé, pas quelque chose que j'ai rêvé, pas quelque chose que j'ai senti, mais pas quelque chose que c'est juste quelque chose que j'ai trouvé, quelque chose extérieur de moi. Ça vient de mathématiques, des formes dans la nature. Et le principe de tile work, qui est juste une manière jolie de dire. Pavage en anglais, parce que tuilage dans la salle de bain, c'est tiles aussi, tile work. Bon, cette idée continue, et dans la dernière pièce, une des dernières pièces qu'on va entendre à la fin de l'émission, parce que le CD, nouveau CD, est arrivé hier. donc c'est le... Hot off the press, c'est
une exclusivité.
Une chose. il s'appelle la pièce principale s'appelle plucking, qui veut dire pincer les cordes. Mais plucking, c'est plus onomatopoïque parce que si on quand pince les cordes, on pluck, 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 pluck. Et ce morceau, c'est un tuilage, un pavage. Mais beaucoup plus avancé que ce que je savais faire en l'année 2000 quand j'ai écrit les premières pièces comme tile work pour alto. En fait, j'étais influencé par un mathématicien qui s'appelle Jean-Paul Davalan, qui est mort juste l'année dernière, mais qui a fait une site web sur jeux mathématiques et beaucoup de choses mathématiques. Et c'était merveilleux, plein de choses. Et une chose qui l'intéressait était les pavages. Et il a trouvé que le pavage le plus court, le plus simple, pour que chaque voix peut jouer ta, 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 dans un autre tempo, et qu'on peut faire un pavage qui remplit une ligne, sans trou et sans de simultanéité. La solution la plus courte exige 9 voix, chacun joue ta, 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 dans un autre tempo, et ça remplit un espace de 36 temps. J'ai trouvé ce petit miracle merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai décidé, alors Plucking va avoir 9 instruments différents. Des instruments qui pincent les cordes, qui pluckent, chaque un avec un autre instrument. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui pincent les cordes en Asie, en Afrique, en Europe, partout. Dans la musique folklorique, le banjo, etc. Et musique classique et de toutes les cultures. Donc c'est merveilleux d'entendre tous ces instruments et on va entendre ça à la fin. Mais ça, c'est pour dire que l'idée de pavage continue de manière plus sophistiquée grâce aux mathématiciens comme Jean-Paul Davalan Et un plugin est dédié à lui, en fait, à cause de ça.
D'accord. Et le morceau suivant qu'on voudrait passer, c'est un extrait de An Hour for Piano, qui est joué par Andrew Lee. C'est sorti il y a 2 ans, 3 ans.
Non, Andrew Lee.
Andrew Lee.
Ah oui.
Oui, oui.
Ça se dit comment en français?
Moi, je dirais R. Andrew Lee, mais enfin, Andrew Lee.
Andrew et, Lee.
Andrew Lee.
En américain. En tout cas, il est américain et il est. Ce morceau a été joué par beaucoup de pianistes différents.
Il y a un disque qui est joué par Rzewski, si je me rappelle bien,
oui,
dans les années 70.
Oui, c'est qui a fait le premier CD. Ouais. Mais il n'a pas joué dans une heure, il a joué en 56 minutes. Et c'était un peu rapide et pas, très, pas aussi raffiné et relax vraiment subtil que cette version d'Andrew Lee me plaît beaucoup. C'est une, et c'est exactement une heure, exactement jouée. On peut écouter, voilà. Malheureusement, pas une heure. Hein, combien on va écouter?
On peut écouter 10 minutes.
Même déjà dans les premières 10 minutes, je crois qu'on va entendre les 5, 6, 7 textures principales qui continuent. Il faut dire aussi que... Samuel Boré a joué ça récemment. Il vit au Mans, mais il a joué à Paris pour l'anniversaire de Satie parce qu'il voulait jouer la seule pièce pour piano longue, c'est-à-dire une heure, on compte pas les vexations. Comment ça s'appelle? Les étoiles.
Le Fils des étoiles?
Fils des étoiles.
Voilà, oui.
Complet. C'est une heure. Mm-hmm. Et c'est très rarement joué parce que c'était jamais édité dans son vivant. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est bien édité et il y a quelques gens qui le jouent. Mais c'était jamais joué en France. Comme la plupart des musiques de Satie, c'est pas très connu en France. C'est tout aux États-Unis et en Hollande où on écoute Satie tout le temps.
C'est ça.
Mais il voulait jouer Le Fils des Étoiles. Et donné que Tom Johnson est un grand admirateur de Satie et que Tom Johnson a écrit une pièce pour piano qui dure une heure aussi, il a mis les deux pièces ensemble. Curieusement, je ne connaissais pas Le Fils des Étoiles à cette époque, mais je connaissais Satie et ça, c'était sûrement une des influences dans cette musique.
Mmh. On va écouter cet extrait de An Hour for Piano de Tom Johnson par Andrew Lee. C'est sorti sur Irritable Hedgehog il y a 2012-2013. CD. Voilà, on écoute ça tout de suite.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, avec notre invité Tom Johnson, et c'est notre ami Grégoire qui anime l'entretien.
Merci. Alors, merci Tom de nous amener autant de musique. Ce morceau, c'était An Hour for Piano, joué par Andrew Lee. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du principe de composition de An Hour for Piano?
Ça venait d'improvisation de cours de danse. J'étais accompagnateur de cours de danse. Pendant 7-8 ans, j'ai gagné ma vie comme ça. Avant de devenir critique et avant de devenir pouvoir gagner ma vie comme compositeur exclusivement. Et chaque fois que je trouvais quelque chose qui m'a plu, surtout une texture de piano que je jouais pour les danseurs, j'ai noté ça et un jour j'ai décidé de mettre les meilleures textures ensemble et je ne savais pas quoi faire, mais j'avais envie de... Comme jeune compositeur, je n'avais jamais écrit quelque chose de long, toujours des pièces de 3 minutes, 10 minutes, 12 minutes exceptionnellement. Pardon. Si je veux être un vrai compositeur, je dois pouvoir écrire une heure de musique. Mm-hmm. Et je pensais, une heure pour piano, ça c'est un bon titre. Et j'aimais tellement ce titre que j'ai décidé de prendre toutes ces ébauches des textures pour piano et les mettre ensemble, de transition de l'un à l'autre, et comme vous venez d'entendre, et faire une heure pour piano qui est bien réussi. C'est très tôt pour musique longue comme ça, 1973. Après ça, il y avait beaucoup de musique répétitive, un peu comme ça. Mais ça, c'est le début de ce style. Et la musique tourne... Toujours, j'ai mentionné Samuel Borre a joué. Il y avait quelqu'un qui l'a fait à Barcelone l'année dernière. Il y a Dante Boone qui l'a joué en Hollande et des autres pianistes. Donc ça continue.
Nicolas Horvat, tu crois, l'avait joué aussi, non?
Peut-être.
Qui avait joué Philippe Glass et du coup...
Jeroen van Veen, le Belge. Bon, mais on va continuer avec les symétries, hein.
Ouais, voilà, on va continuer avec les symétries, mais avant, je voudrais quand même te faire parler un peu, du coup, pour remettre dans le contexte quand même, on est dans les années 70, à ce moment-là, tu es aussi critique au Village Voice. C'est pendant une dizaine d'années, en fait, tu donnes un témoignage, en fait, de toute la scène expérimentale des années 70. Et tout ça, c'est réuni sur ton site. C'est un énorme PDF sous le nom de Voice of New Music. Avant, c'était un livre, c'est ça?
C'est ça,
appelé,
oui.
Oui, que tu avais sorti en...
Oui. En 87, je crois. 87. Mais c'était vite épuisé. On a c'est décidé ça. De... Ne pas rééditer, mais juste le mettre online.
Et cet ouvrage est vraiment une somme vraiment très, très impressionnante. Je conseille tout le monde d'aller lire ça sur ton site édition75.com. The Voice of New Music, c'est vraiment un témoignage de toute la scène expérimentale new-yorkaise, mais aussi européenne. On a vraiment des comptes rendus des débuts de Steve Reich, on a juste à Lud Ferrari, Hans Hütte, on a Robert Ashley, Finney Block, Liane Radid. Il y a vraiment pratiquement personne qui manque. Peut-être... on peut toujours en trouver, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est vraiment beaucoup de beaux articles aussi, de beaucoup de réflexions que tu auras toute ta vie sur le fait de laisser la musique faire ce qu'elle veut, et l'importance du processus, de la rigueur aussi, que tu... une certaine idée du minimalisme que tu garderas toute ta vie. Est-ce que tu pourrais parler vraiment de ta notion, de ta conception du minimalisme?
Ouais, c'est juste un mot, ça veut dire minimal, le moins de matériel possible. Et less is more. Il y a beaucoup de manières de penser à ça, mais pour moi, c'est... ça a commencé aussi avec l'opéra de quatre notes. Écrire une heure de musique pour quatre chanteurs et piano uniquement avec la, si, ré, mi. Et ça, c'était réduire la gamme. Mais on peut réduire jusqu'à avoir des mélodies simples, comme les mélodies rationnelles. Ça, c'est une autre espèce de minimalisme ou de... on peut écrire une pièce pour une bande en caoutchouc. Ça, c'est un instrument minima. Ou juste maintenant, depuis quelques mois, j'écris musique pour bloc de bois.
Pour bloc de bois.
Bloc de bois. Et parfois, il y a deux ou trois, mais normalement, pas ensemble. C'est toujours avec pavage. Et c'est un instrument, c'est vraiment un instrument de musique, mais en même temps, si on le joue dans le parc, on peut penser que c'est un menuisier ou, ou quelqu'un qui claque les mains. Ou ça peut être même un écureuil ou un oiseau qui fait clac, clac, clac. Et c'est un son qui n'est pas musique. C'est musique, mais pas musique. Et ça, c'est vraiment un instrument musical, un instrument minima aussi. Et ça me plaît beaucoup. J'ai décidé de... Et maintenant, je trouve beaucoup de rythmes mathématiques qui m'intéressent beaucoup. Et juste pour écouter le rythme, c'est très bien de le jouer au bloc de bois. Ne pas le compliquer avec des fréquences et des instruments, et de phrases, de violons, des instruments comme ça. Bon, c'est... Ça, c'est un autre minimalisme très actuel. En fait, c'est peut-être le plus minimal de la musique que j'ai jamais écrit. Une heure pour piano était assez minimal aussi, mais tous les accords possibles dans une octave juste. Ça, c'est réflexion minimale, parce que c'est juste laisser tourner la machine, la machine de combinatoire. Bon, on a dit assez... Sur minimalisme, c'est une explication minimale, en tout cas. Au moins.
Au moins. Et du coup, on va passer sur les symétries. Est-ce que les symétries, si j'ai bien compris, c'est ton... Tu as utilisé des dessins, en fait, des diagrammes qui sont très, très impressionnants et qui sont symétriques. C'est parfois des croches, des noirs qui sont très, très... qui sont combinés de façon très symétrique, et après la partition et à partir de ces dessins.
Mais il n'y a pas de portée.
Il n'y a pas de portée dans les dessins d'origine.
C'est
les
notes qui sont suspendues dans l'air. Mais je l'ai fait avec une machine à écrire musicale.
D'accord.
Qui était utilisée dans les années 60-70. Et quelqu'un m'a prêté une bonne machine comme ça. Et ça faisait des images avec... très noir, très beau, et je pouvais contrôler exactement l'espacement horizontal et vertical très précisément et faire des angles et des courbes assez spéciales. Et après, j'ai édité les images. C'était 79, je crois. Et je voulais que les gens interprètent mes dessins. Mais personne ne voulait le faire. C'était pas clair. Mais c'est en quelle tonalité que ces notes veulent dire comment et quelle gamme. Bon, finalement, j'ai décidé de le faire moi-même pour piano à quatre mains. Et à l'époque, je faisais des concerts avec Philip Corner qui jouait le piano aussi. Et nous avions des concerts ensemble. Il avait quelques pièces pour piano à quatre mains aussi. Donc, nous faisions des concerts ensemble, et y compris les symétries. Il y avait 49 symétries, à peu près une minute chacun. Donc, ça faisait un petit concert ou demi-concert. Et bon, cet enregistrement est fait par le même Dante Boone que je viens de mentionner. Et Samuel Vreeson, de très bons musiciens d'Amsterdam qui sont devenus amis et collègues. Nous avons travaillé ensemble assez souvent. Et ils ont fait une merveilleuse version des symétries dans un bon studio. Et donc, on peut écouter quelques-uns. Chacun est très différent. C'est juste des miniatures d'une minute. Et toujours... Le début est symétrique avec la fin. Et normalement, les aigus sont symétriques avec les graves.
D'accord. Ben, on va écouter ça tout de suite, le début de Symmetries de Tom Johnson. Vous êtes toujours dans les oreilles libres, sur Radio Libertaire. On est avec Tom Johnson aujourd'hui. C'était un extrait des Symmetries que tu as composé à partir du coup de schémas très complètement symétriques. Tu nous as dit avec une machine à écrire de la musique.
C'est ça. Mmh.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben encore une fois, on veut quand même te remercier d'être venu. On va parler du coup du CD que tu sors bientôt, qui s'appelle Plucking.
Oui, ça vient d'arriver juste avant-hier. Et c'est de Californie. John Schneider dirige un label qui s'appelle Microfest. C'est aussi un festival. Il a décidé de faire pour la première fois une version sérieuse de Plucking. Et donc, on va écouter un peu de ça. Mais pour faire Plucking, il faut 9 instruments aussi différents que possible, mais tous pensantes des cordes. Mm-hmm. Donc, il a trouvé, par exemple, le tar que nous allons être, nous pouvons entendre individuellement, juste en jouant une mélodie rationnelle, juste pour introduire cet instrument. Peut-être on écoute le oud aussi. Hein?
Oui, on peut enchaîner ces deux pièces-là pour tar et pour oud. C'est les Russian Melodies qui ont déjà été joués plusieurs fois. Il y avait un CD qui était sorti par Dédalus il y a trois ans.
Oui. Et, il y a un autre CD par un clarinettiste, un autre par un violoniste et un autre par un flûtiste. Mais Dédalus a fait avec 9 instruments différents. Oui. C'est beaucoup plus intéressant parce que c'est antiphonal assez orchestré.
C'est ça. Les Russian Melodies, c'est instrumentation libre et c'est encore un processus très très logique, très clair, très simple, des pièces parfois très courtes.
C'est juste des mélodies. Il n'y a jamais deux notes simultanées.
Voilà, du coup, on va écouter cette version nouvelle. L'ensemble, comment s'appelle l'ensemble?
C'est pas un ensemble, pas Microfest.
Chez Microfest.
Microfest Festival.
Et du coup, c'est les Russian Melodies pour tar et pour oud.
Thank you.
C'était les Rational Melodies de Tom Johnson sur un CD qui vient tout juste d'arriver, qui sortira chez Microfest. Et c'était les Rational Melodies pour Tar et pour Oud. Le Tar, c'est un instrument persan, c'est ça? Et l'Oud, c'est arabe.
Tar, je crois qu'on le joue en Turquie, non? Aussi?
Je ne sais plus.
Je suis pas sûr. On ne connaît pas ces instruments. Et c'est horrible parce qu'ils sont très beaux. Et tous les guitaristes qui improvisent, et dans un concert d'improvisation, il n'y a pas raison de juste jouer la guitare tout le temps. Et si on peut jouer la guitare, on peut jouer n'importe quel instrument qui pince les cordes comme ça. Mais les autres instruments sont un peu spéciaux aussi. Il y a le clavecin qui pince les cordes avec un clavier, mais c'est pareil. Et la harpe et cora et quoi d'autre?
Il y a un koto.
Koto.
Et la sitar.
Mais tous ensemble, 9 instruments différents qui pincent les cordes. Et j'ai parlé tout à l'heure, comment je voulais faire plucking dédié au mathématicien Jean-Paul Davalan. Et c'est tous les. Et ça, c'est pavage aussi. Beaucoup de manières différentes de pavage. Je parlais de la ligne de 36 temps. Où on entend ta-ta-ta-ta en 9 voix différentes, chaque voix dans un autre tempo. Mais il y a beaucoup de pavages beaucoup plus simples. Il y a au début des pavages juste de suite de 8 temps et 12 temps, etc. Dans un moment, il y a toutes les variations possibles de 9 voix qui jouent ta-ta-ta en 27 temps. Et il y avait, je crois que c'est 13 ou 15 pavages possibles que Jean-Paul Davalan a précisé et que j'ai utilisé comme ça. C'est vraiment une musique trouvée. C'est dans le livre de maths, pouf, je pouvais juste copier les nombres et voilà ma musique. C'était pas toujours aussi simple que ça. Bien sûr, il faut trouver la bonne liste et trouver les bons instruments et composer un peu. Mais c'est quand même une musique trouvée et pas une musique composée.
C'est très intéressant. Il y a aussi, quand même, comme tu l'as dit, ça, il y a quand même le souci d'avoir aussi un résultat qui te plaît à toi. Tu peux pas, on ne peut plus trouver juste une formule mathématique comme ça et l'appliquer telle quelle sans penser. Voilà.
Non, il faut parler tempo et combien d'instruments.
Il y a tellement de choix.
Mais après, je n'ai pas précisé l'instrumentation, j'ai juste dit 9 instruments aussi différents que possible qui pincent les cordes. Il y a beaucoup de possibilités. Malheureusement, il n'y a pas de banjo, par exemple, et pas de chamizan aussi. Et le. Il y a un koto, mais ça, c'est le seul instrument japonais. Et il y a des autres instruments dans les autres côtés. Pas de balalaika. C'est dommage qu'il n'y avait pas de balalaika. Bon, peut-être qu'il y a une autre version avec chamizan et balalaika et banjo. Mais ils ont choisi. Et à Los Angeles, c'était pas difficile de trouver des bonnes musiciens qui jouent les instruments des autres cultures, parce qu'il y a un département d'ethnomusicologie à UCLA et UCLA. Il y a beaucoup de professionnels qui jouent dans les films, etc. Mais quand le technicien revient, on va écouter le plucking.
Mais d'abord, il faudrait quand même te faire parler encore une fois du fait que tu t'es auto-édité depuis le début. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense on est quand même sur Radio Libertaire où on est beaucoup en auto-gestion.
Ah oui.
Et on cherche quand même maximum à faire les choses par nous-mêmes, à pas. Et ça, c'est tout important, je pense.
De temps en temps, quelqu'un, un compositeur m'écrit, « Hey, tu fais des éditions tellement belles, j'aimerais bien trouver une édition comme ça. Vous ne voulez pas considérer une édition de ma musique ?» J'ai dit, « Du début, mon idée est que chaque compositeur doit s'occuper responsablement de sa propre musique, y compris les éditions, la typographie, la couverture, la distribution, tout. Parce que c'est ta musique, tu es responsable. Tu donnes à Salabert ou quelqu'un de faire toutes les décisions comme ça. Et d'abord, tu perds 50% des droits d'auteur, qui n'est pas très agréable si tu veux, comme moi, vivre de ta musique. Mais aussi, tu donnes le droit à préparer le matériel d'orchestre et, et un éditeur a le droit de donner permission pour ta musique pour un cinéma pornographique, par exemple, que peut-être tu ne voudrais pas, mais si l'argent est important, un éditeur a besoin d'argent, il va dire oui, ou bon, etc. C'est-à-dire tous les... un cas... C'est failing a very difficult piece for string bass. Dans mon cas, il y a toujours, très souvent, il y a un violoncelliste ou un guitariste qui joue failing. Et à chaque fois que j'entends un cas comme ça, j'écris une lettre très forte. Excusez-moi, mais c'est une pièce pour contrebasse. Et les droits des contrebassistes doivent être protégés. Et si jamais j'entends que vous jouez encore une fois ce morceau pour guitare ou pour violoncelle, vous risquez d'avoir un procès pour infringement of copyright. Et avec ça, je contrôle et failing reste un morceau pour contrebassiste. Et les contrebassistes continuent à le jouer parce que c'est leur musique. Et ça, c'est important. Si je donne ça à l'éditeur, il va dire oui à n'importe quel violoncelliste. Il va dire oui, c'est bon, on gagne plus d'argent comme ça. On fait l'édition pour violoncelle et le compositeur ne peut pas nous empêcher. Bon. Parfois, tu veux contrôler des choses comme ça, légalement. Et si tu as donné le copyright à quelqu'un d'autre, c'est perdu. Fin de sermon. Auto-édition. Et un autre avantage est qu'en France, en tout cas, si vous éditez uniquement vos propres œuvres et vous vendez une partition, vous ne payez pas TVA.
Ah ben oui.
Le Salabert doit payer TVA. Et donc ça, c'est un avantage avec ce que je gagne en ne pas payant le TVA. Je peux payer la poste et l'envoyer. Je ne demande pas que vous payiez pour le frais d'envoi si vous commandez quelque chose des éditions 75.
Super. Ben, on va clore là-dessus. Merci encore, Tom. Alors, ton site internet est plutôt bien fait. Il s'appelle édition75.com.
Voilà.
C'est le nom de ta maison d'édition.
Oui.
Sur ton site, on peut trouver encore pas mal d'essais, des partitions. On peut commander tes partitions.
Oui.
On peut retrouver.
CD aussi.
On peut commander tes CD, tout simplement. C'est toi qui t'occupes de tout, ou tu te fais aider aussi par Rabial, c'est ça?
Je n'ai pas produit un CD, jamais.
Jamais.
Tous les CD sont produits par quelqu'un d'autre, mais à chaque fois, avec Plucking, par exemple, j'ai immédiatement acheté 30 exemplaires pour avoir, tu peux les donner aux gens, aux critiques, et des choses comme ça, mais je peux les vendre aussi, et... quelqu'un peut le commander, édition 75.
Tu as aussi un micro-site dedans pour les guitaristes.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Qui ressemble
un très bon guitariste de Tenerife qui a joué toute ma musique pour guitare et joué très bien. Ça s'entend aussi.
Très bien.
Alors, moi, j'ai...
On va finir l'émission.
Grégoire, j'ai deux annonces concernant la librairie Publico. Alors, je ne sais pas si tu as des annonces de concert, toi. Moi, je n'aurai pas d'annonce de concert, mais simplement samedi 2 septembre, c'est demain, à 16h30, à la librairie Publico. Il y a une rencontre avec. Un débat organisé par le groupe La Révolte. Et c'est rencontre et débat avec la revue Réfraction autour de son dernier numéro consacré au travail. Le numéro s'appelle Tu vois le travail, c'est tout à fait d'actualité. Et c'est. Alors, je vous dis un petit peu le début du texte. Pour la plupart d'entre nous, le travail est une réalité quotidienne. C'est pourquoi la notion de travail est un sujet de conversation si fréquent, voire omniprésent, surtout dans le contexte actuel des attaques incessantes perpétuées par l'État et le patronat à l'encontre du droit du travail. Tout à fait d'actualité. C'est donc demain à 16h30 à la librairie Publico, 145 rue Amelot. Dans le 11e arrondissement de Paris, c'est le siège de la Fédération anarchiste et où vous pouvez trouver d'excellents bouquins. Et je signale, puisque l'émission de la semaine prochaine sera est d'ores et déjà enregistrée, donc on ne pourra pas faire l'annonce, mais je signale, parce que là, ça me tient beaucoup à cœur, que samedi 9 septembre, il y aura un concert, toujours à la librairie Publico, à 17h, un concert de Rémi Tarrier. Rémi Tarrier, pour moi, c'est assez mythique parce que je me souviens qu'avec mes amis, nous écoutions en boucle sa chanson « Il n'y aura pas de match retour ». Alors, je ne sais pas s'il la chante encore parce que c'était un peu humoristique, on va dire. Mais voilà, Rémi Tarrier, c'est vraiment étonnant. Ça nous a beaucoup étonnés à l'époque. Et c'est samedi 9 septembre à 17h. Voilà. Je te laisse conclure alors, Grégoire.
Et du coup, c'était Les Oreilles Libres. On avait comme invité Tom Johnson. Merci encore d'être venu.
Et finalement, on arrive à Plucking.
Et finalement, on va écouter Plucking de ton dernier CD. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et la semaine prochaine
la semaine prochaine, c'est Eliane Radig, interviewé par Marco.
Voilà, Marco Cacialupi. Allez, merci Tom. Salut Grégoire, à bientôt.
Salut, merci Christophe.
Salut à tous.